Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel, vous écoutez l'émission Parler pour ne rien taire. Olivier Lostis, je suis en compagnie de Dominique Desmichel et nous allons continuer à parler d'un sujet que nous avons commencé à décortiquer ensemble lors de la dernière émission, qui est celui du désir, pour essayer d'en définir quelques contours, même si ce sujet est très très vaste, raison pour laquelle on avait souhaité faire un deuxième numéro de l'émission sur le sujet. Et Dominique, tu souhaitais notamment qu'on aborde ce qu'on a peu fait lors de la première émission, même si forcément on y a fait allusion à plein de fois, parce que c'est à plein de reprises, puisque c'est absolument indissociable de la question du désir, mais c'est la question charnelle, la question de l'incarnation du désir, évidemment avec tout ce que, du côté de la psychanalyse, on embarque en parlant de sexualité, avec souvent des choses d'ailleurs, sur lesquelles on reviendra peut-être aussi, qui viseraient à dédramatiser ou à désexualiser la manière dont les gens peuvent entendre parfois, souvent, la préoccupation centrale du sexuel en psychanalyse est évidemment un peu plus compliquée que ça. Enfin voilà, mais tu voulais aussi, pour donner un petit côté biologique à la chose, commencer à parler, quoique biologique pas seulement non plus, mais de la sexualité, du désir, ce qu'on pourrait appeler le désir chez les animaux.
Oui, ce qui me semble, c'est que le désir, on l'a vu un petit peu lors des précédentes émissions, c'est une sorte de dynamique, hein. C'est un mouvement, c'est quelque chose qui émerge à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous invite, qui nous appelle, qui nous pousse à accomplir quelque chose, que ce soit du côté d'une espèce de satisfaction immédiate qui va nous donner du plaisir, que ce soit du côté d'un projet de vie qui va venir transcender un petit peu l'immanence de nos existences, que ce soit dans le cadre d'une relation affective, d'un projet, d'une créativité, voilà. Mais il me semblait que c'était important aussi, quand on parlait du désir, de reparler de la question de la sexualité dans sa dimension charnelle, dans sa dimension, on pourrait dire, génitale. Nous savons, nous, que dans le modèle animal, ce sont essentiellement des moments qui sont consacrés à la reproduction, c'est-à-dire à l'accouplement, en tout cas dans la reproduction qui est sexuée, ça veut dire dans la reproduction dans laquelle il y a un mâle et une femelle, que ce soit d'ailleurs dans le monde végétal, dans le monde animal ou dans le monde humain, il y a cette rencontre sexuée, mais que dans le modèle animal, il y a un moment particulier qui est déterminé par quelque chose de très très concret que je pense une bonne partie des auditeurs connaissent, que sont les phéromones. C'est-à-dire, les femelles, en fait, arrivent à un moment où elles sont fécondes, c'est-à-dire pendant leur cycle, elles sont fécondes, et à ce moment-là, elles émettent des hormones qui vont attirer les mâles sont attirés, et il y a un accouplement. En dehors de ces moments-là, les femelles ne sont absolument pas réceptives, et en gros, le plus souvent, les mâles ne sont pas très intéressés par la sexualité. Alors, entre certains arbres qui ont une reproduction sexuée aussi, et puis les bonobos qui résolvent tous leurs petits conflits par des petits câlins sous la couette, on est évidemment dans des modèles qui sont radicalement différents, mais fondamentalement, c'est la même chose. Or, une des caractéristiques chez l'humain, c'est que la rencontre entre un homme et une femme motivée par du désir n'est pas déterminée par un moment précis qui correspondrait aux conditions pour une reproduction. Voilà. En gros, dans un cycle chez une femme, dans un cycle qui fait 28 à 30 jours, on va dire 30 jours parce que c'est plus simple, même si tout le monde entend 28, en gros c'est entre 26 et 35, c'est un petit peu variable. Le moment du milieu de ce temps-là, c'est-à-dire entre la date des règles et la date des règles suivantes, au milieu se produit l'ovulation. En gros, pendant 2 jours avant cette ovulation et on va dire 3 jours après cette ovulation, la femme est féconde. Avant l'ovulation, juste parce que les spermatozoïdes vont rester un petit peu de temps et vont pouvoir féconder l'ovule. Et après, parce que l'ovule se promène un tout petit peu et va pouvoir être fécondé, faire un œuf qui va s'implanter dans l'utérus. Or, une des caractéristiques dans l'espèce humaine, c'est que le rapport sexuel n'est pas nécessairement, ou même pas du tout, en fait, cadré par ce moment de la reproduction. Donc voilà, il me semble, quelque chose qui est important. Le deuxième point que j'avais envie de dire, puis après tu me coupes, Olivier, si tu as envie de dire sur autre chose, c'est de dire quand même qu'il y a une différence. Je ne m'hasarderai pas ici à essayer de déterminer les causalités profondes, mais il y a une différence dans le rapport à la sexualité entre les hommes dans le sens masculin et les femmes dans le sens féminin. J'aime bien souvent prendre le modèle du corps, qui est que l'homme s'érige dans le sens d'une érection de son pénis, et la femme accueille, c'est-à-dire elle ouvre son corps pour accueillir l'homme. Et au fond, on voit bien qu'il me semble que dans cette dimension-là, quelque chose de l'immédiateté et j'allais dire de l'enracinement très pulsionnel du désir chez l'homme est probablement très très prégnant, très très important et très centré sur, il me semble, cette pulsion. Probablement chez la femme, il y a quelque chose qui se fait dans une temporalité qui est moins dans l'immédiateté, qui nécessite un certain temps. D'ailleurs, pour un rapport sexuel chez l'homme, une érection, ça demande quelques secondes. Il y a un petit peu d'oxyde nitrique qui arrive, qui dilate très vite ce qu'il faut et l'érection arrive. Chez une femme, c'est plus compliqué avant qu'elle soit à même de pouvoir accueillir charnellement dans de bonnes conditions son compagnon. Voilà. Ces deux différences-là, ça me semble important. On voit ça d'ailleurs dans le fait que probablement une des dimensions de cette pulsion chez l'homme, c'est du côté d'une forme de conquête, donc dans une polarité qu'on pourrait dire active, et dans l'espace plus féminin, il y aurait comme perspective plutôt d'être conquise. Alors, je sens qu'il y a beaucoup de féministes qui vont me tomber à...
Ça va faire du débat.
Voilà, ça va faire du débat. C'est-à-dire, mon propos est peut-être de dire qu'il ne s'agit pas d'en faire une norme du tout, mais d'en faire juste une espèce de phénoménologie, c'est-à-dire de partir de critères d'observation. Que ceci ait été largement déterminé par une culture tout à fait abusive, avec un patriarcat terrible... Et tout à fait peut-être sadique ou qui s'est comporté comme un propriétaire, en particulier propriétaire des femmes, c'est très très vraisemblable. On voit d'ailleurs que quand même beaucoup de travaux qui sortent ces dernières années, là en tout cas en 2020 au moins, autour de la préhistoire, montrent que vraisemblablement, même si ça paraît discutable parce que c'est difficile de le prouver avec certitude, que la place des femmes, peut-être dans le paléolithique et peut-être même dans le néolithique, n'était pas la même que maintenant. Mmh. Je rajoute un dernier petit point qui est quand même quelque chose qui est un peu intriguant, qui est qu'il y a une pornographie pour les hommes. Le journal Playboy, je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà, tout le monde connaît ça, en tout cas sur le plan culturel, et qu'il n'y a pas d'équivalent chez les femmes. Mais qu'au fond, quand on regarde la publicité qui est faite pour les sous-vêtements, qui est-ce qui la regarde ? Le plus souvent, ce sont les femmes, et ce ne sont pas les hommes. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, on peut penser que dans la psychologie féminine, dont j'accepterais tout à fait de dire qu'elle est dramatiquement axée et cadrée par une culture tout à fait discutable, il y a une sorte d'identification. C'est-à-dire, je m'identifie au fond à une sorte de déesse pour être désirée. Voilà. Alors, probablement, on peut penser qu'avec tous les mouvements actuels autour de MeToo, autour d'une revendication, d'une véritable autonomie et d'une véritable... conditions de sujet chez la femme, quelque chose est en train de changer. Et tant mieux, en tout cas, moi je suis largement le premier à m'en réjouir. Mais c'est important de dire ça parce que dans la sexualité des couples, il y a quelque chose qui n'est pas simplement un cliché, qui est mis sous la forme « les hommes ne pensent qu'à ça » et les femmes en ont marre toujours de se sentir objet, d'autant plus qu'elles peuvent être relativement vite culpabilisées par leur conjoint s'il n'y a pas ce qu'il faut, en gros. Voilà. Donc je pense que toutes ces petites choses qui sont un petit peu triviales, un petit peu basiques, je pense que c'est important de pouvoir en parler, peut-être pour élargir son champ de compréhension et saisir que les choses sont complexes.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu disais. Effectivement, il y a des... Je souscris à ce que tu dis. Peut-être que je voudrais ajouter ou nuancer certains aspects, notamment que, par exemple, on a l'habitude de vraiment distinguer très fortement la sexualité animale de la sexualité humaine. C'est certainement fondé. Et puis, notamment, on peut se dire que l'humain est l'animal le plus prématuré de tous les mammifères, en tout cas. Après, je ne le connais pas autant que toi, en tout cas, toutes ces choses-là, mais l'humain est certainement le plus prématuré de tous les mammifères, et il est, à sa naissance, en fait, pas du tout terminé, et notamment absolument incapable d'avoir la moindre autonomie, ce que la plupart des mammifères, à contrario, ont. Plus ou moins vite. Par exemple, les chiens très domestiqués n'ont d'autonomie qu'au bout de 2-3 semaines, souvent pas tellement moins, mais par exemple, un herbivore en général, quelques minutes, quelques dizaines de minutes après la naissance, il marche et il court même, pour des raisons évidentes, de devoir sauver sa vie la plupart du temps. Mais bon. Et donc l'humain est totalement inadapté à la réalité qui l'entoure, totalement dépendant de ses parents, ou du moins des gens qui s'occupent du tout petit enfant, et que c'est avec ça qu'un humain doit faire au départ. C'est-à-dire que les seuls premiers moyens, non pas d'acquérir de l'autonomie, mais d'obtenir quelque chose dont il a besoin, on ne parle pas de désir encore, mais c'est de le vocaliser, en gros, en quelque sorte, c'est-à-dire de pleurer, quoi. Le premier geste symbolique d'un tout petit, c'est de pleurer pour signifier qu'il a un besoin qu'il ne sait pas formuler et que les parents vont interpréter, et puis progressivement on va construire du sens comme ça, ce qui n'est pas du tout le cas pour les animaux. Je ne suis pas sûr que pour autant il n'y ait pas, par exemple, de désir chez l'animal, y compris en dehors des rythmes de sexualité. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et notamment chez les espèces de mammifères très évoluées, on voit qu'il y a des moments de désir qui n'ont rien à voir avec la procréation. On a même trouvé des exemples d'homosexualité chez les dauphins, chez les singes, ce qui signifie bien là que le désir sexuel, pour le coup, est déconnecté de la reproduction, puisque par définition, ça ne se peut pas là. Bon, donc les différences sont peut-être pas forcément si absolument radicales que ça. Je veux dire, les animaux peuvent avoir un certain accès au symbolique du désir. Les humains ont un enracinement en miroir dans le corps du désir. Ça, c'est, je crois que c'est comme ça aussi qu'on peut dire notre animalité, d'une certaine façon. Oui, oui. C'est que nous avons aussi, et quand je parle d'animalité, je fais référence effectivement au terme anima animus, en gros le corps et l'esprit, enfin ce qui est animé et ce qui anime, d'où procède le mot animal. Et en ce sens, nous sommes aussi des animaux. Bon. Donc ça, c'est, je pense qu'il faut reconnaître à l'animal une vraie différence par rapport à l'humain, du côté de cette sexualité, mais en même temps, un partage de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout corps et nous ne sommes pas tout esprit, du côté du désir. Voilà. Ouais, donc ça, c'est des choses qui sont quand même importantes. Évidemment, ces questions... je crois qu'elles étaient beaucoup plus simples d'en débattre il y a quelques années, quelques décennies, parce que tu soulignais homme-femme, et puis certaines des caractéristiques que tu as pu donner sur le registre à la fois de la réalité du corps, mais aussi de la symbolique du corps, c'est-à-dire des modes de comportement qu'induisent des réalités et puis des imaginaires autour d'un réel, d'un corps, etc. Après tout, on n'est pas obligé nécessairement d'associer à l'érection l'attitude conquérante de l'homme par rapport à une femme qui serait plus passive et tout. C'est ce que, pour autant, notre culture historique en tout cas, mais historique jusqu'à quand, effectivement, la préhistoire peut-être pourrait nous contredire, mais on ne sait pas trop, mais notre culture historique en tout cas est très patriarcale, à l'évidence. Il y a des exceptions, il y a des contre-exemples, mais les exceptions et les contre-exemples viennent attester de l'immense majorité ultra-dominante du monde humain comme patriarcale, quoi. Et aujourd'hui, ces choses-là, fort heureusement, changent. En tout cas, dans nos sociétés, je ne sais pas, c'est pas partout, c'est pas tout le temps, mais dans nos sociétés, il y a des choses qui changent, et notamment avec l'introduction du terme de genre, que tu n'as pas cité, mais qui est sous-jacent dans tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est peut-être intéressant pour essayer de réfléchir, en tout cas dans un premier mouvement, peut-être que ça peut choquer beaucoup de gens, mais de dire voilà, il y a trois choses. Il y a son sexe anatomique, biologique, corporel, masculin, féminin, avec beaucoup de nuances, parce que il y a énormément de situations de gens intermédiaires, y compris biologiquement, et c'est beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait croire comme ça. Mais en tout cas, il y a deux pôles, un pôle masculin, un pôle féminin, qui à l'évidence, corporellement, pour les êtres humains, s'identifient très, très facilement. Bon. Il y a le genre, c'est-à-dire que on peut très bien se sentir appartenir à ce sexe anatomique ou pas. Soit à l'autre, soit à aucun des deux. Aujourd'hui, le genre, je crois que des genres, on en dénombre plusieurs dizaines, enfin, il y a des tas de nuances, je serais incapable de citer tous les termes, mais bon, d'intersexualité, etc. Et donc le genre, c'est-à-dire là où ce à quoi on se sent appartenir comme catégorie genrée, référée à du masculin et du féminin, mais pas corporel, simplement psychique, bon, ça peut être différent. Mais il y a un troisième point, et souvent on l'oublie, c'est le choix de l'objet. C'est-à-dire qu'on peut choisir un objet qui est différent de soi, en genre et en sexe, ou les deux, ou pas, et ou alors un objet sexuel qui est le même, ce qu'on appelle traditionnellement l'homosexualité. Même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que on peut être un homme qui se sent femme, et mais un homme, est-ce qu'on est homosexuel ou pas? Il y a un débat. Certains se revendiquent d'être hétérosexuels tout en aimant des personnes du même sexe anatomique que...
Tout à fait.
Donc c'est,
moi,
c'est vraiment...
une situation où c'est exactement ça. Hein,
voilà.
À propos d'un adolescent, enfin, un adulte jeune.
Donc c'est dans cet univers, peut-être que tu pourrais nous en dire deux mots pour éclairer concrètement ça, mais dans cet univers très distribué, très compliqué, aujourd'hui c'est là-dedans que le désir se place. C'est-à-dire qu'il a à la fois sa dimension biologique, à la fois sa dimension psychique, à la fois sa dimension, pour le genre, on pourrait dire, sociale, socio-psychique, enfin, je ne sais pas très bien comment on peut placer, mais on ne peut pas, en tout cas, je crois, dans une démarche psychanalytique, ignorer, parce que ce sont des choses, on peut être d'accord, pas d'accord, dans la vie courante, peu importe, on peut condamner, moralement trouver ça affreux, etc., on peut... tout dire et tout faire là-dessus, mais en tant que psychanalyste, non. C'est une dimension de la réalité, donc on a à accueillir cette complexité extrêmement, extrêmement importante aujourd'hui, et encore une fois, le désir navigue nécessairement dans cette très grande complexité actuelle. C'est plus du tout la psychanalyse de grand-papa.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Alors moi, je vais reprendre peut-être deux choses. D'abord, cette question d'identité et de sexe, au fond, hein, d'une part, et puis aussi ce sexe inconscient psychique, hein, qui a été bien développé par Freud. Jung a repris cette image en disant « il y a comme une sorte de personnage à l'intérieur de nous-mêmes qui n'a pas le même sexe que nous, au fond ». Donc, pour reprendre des mots, mais tu ne les as pas utilisés tout à fait dans ce sens-là, mais chez Jung, par exemple, voilà, chez un homme, il y a sa partie féminine qui est comme une sorte de personnage à l'intérieur de lui-même, qu'il a appelé l'anima. Chez une femme, il y a un personnage à l'intérieur d'elle-même qui est de sexe masculin ou de genre masculin et qu'il a appelé l'animus. C'est bien important, en effet, de savoir que pour reprendre ce que tu disais, que cette identité du côté du genre, ce sentiment d'appartenir à un certain genre existe extrêmement, extrêmement précocement. Moi, pendant très longtemps, j'avais une connaissance uniquement théorique là-dessus, en lisant, et puis je continue à accompagner ce qu'on appelle les transsexuels. Et au fond, les transsexuels, c'est quoi? Ce sont des individus qui ont un sexe anatomique clair, défini à la naissance, il s'appelle Pierre-Paul Jacques, il s'appelle Marie, Françoise ou Sylvie, mais eux, ils ont extrêmement, extrêmement tôt eu le sentiment d'être d'un autre sexe. Hein. Je donne un tout petit détail que j'aime bien citer pour dire combien ce sentiment d'appartenir à l'autre sexe s'inscrit dans les gestes de tous les jours. La grande majorité, si ce n'est probablement la quasi-totalité, des garçons nés garçons et ayant un zizi de garçon, quand ils vont faire pipi, ils s'assoient sur la cuvette. Tout le temps, ils s'assoient sur la cuvette, c'est-à-dire ce que font les petites filles, les grandes filles et les femmes. Ça, c'est, voilà. Et moi, pour tous ceux que j'ai pu accompagner ou que j'accompagne encore, c'est une question souvent que je pose. Les gens me disent, ben oui, je me suis toujours assis sur les cuvettes. Hein, donc, sur la cuvette. Évidemment, c'est un geste culturel, pour une part, mais probablement, on peut penser que même au paléolithique, les hommes faisaient pipi debout et les femmes faisaient pipi en s'accroupissant. Et d'ailleurs, on voit une sorte de revendication dont on pourrait, dans une certaine mesure, au premier degré, presque trouver ça un petit peu dérisoire, pathétique, voire s'en moquer. Mais beaucoup de femmes qui ont le sentiment d'être un garçon depuis toujours, elles disent « mais c'est depuis toujours, je suis comme ça », elles revendiquent la possibilité de faire pipi debout. Hein. Mmh. Et on sent bien que dans leurs paroles, si on les écoute en profondeur, ce n'est pas du côté de l'anecdote, c'est du côté d'une sorte d'affirmation et de mise en scène individuelle, parce qu'elles ne font pas pipi sur la place publique, elles vont dans les toilettes des hommes et elles ont cette nécessité-là. Donc, je trouve que c'est intéressant que nos auditeurs entendent que ça se joue aussi dans une sorte de corporéité souvent empathique, souffrante, pour beaucoup d'entre eux ou d'entre elles, mais dans quelque chose qui se joue pour eux comme une évidence. Voilà, oui. Et pour reprendre ce que tu disais, en effet, et là, moi, chez des gens que je vois actuellement qui sont dans cette situation, on s'aperçoit que, je vais prendre un exemple, un garçon qui est né garçon, qui s'est toujours senti fille, peut tomber amoureuse, et je dis amoureuse, puisqu'à un moment, il dit qu'il est une fille, amoureuse ou d'une fille ou d'un garçon. Absolument. Et qu'à ce moment-là, les catégories de dire est-ce qu'il est homosexuel ou hétérosexuel, ça n'a plus aucun sens, puisqu'il y a quelque chose de l'identité profonde du côté du genre. Je me sens une fille, je me suis toujours senti une fille, et je suis amoureuse d'un garçon.
On va faire une petite pause musicale, mais bien sûr, on revient sur ces sujets juste après. Juste avant la pause musicale, tu évoquais ces situations. Et notamment, tu disais les deux vocables, peut-être qu'aujourd'hui on pourrait les considérer comme dramatiques, ou alors même dramatiser leur usage, c'est hétérosexualité, homosexualité. Bien évidemment que cette construction...
Je précise juste un petit mot pour les éditeurs, hein. Homo, ça n'a rien à voir avec les mots homme. Hein. Homo, ça veut dire le même.
Oui.
Hein, le même.
Oui.
Donc hétéro, c'est, ça veut dire l'autre. J'aime l'autre que moi, et où je désire l'autre que moi, où je désire le même que. Hein. Par exemple, on voit ça dans hétéronomie ou homonomie. Hétéronomie, c'est-à-dire la loi de l'autre, être sous la loi de l'autre. Je t'ai coupé.
Absolument. Non, mais c'était bien de faire ce point-là, parce qu'effectivement, il y a ces confusions parfois qui existent. Mmh. Ouais. Donc c'est aujourd'hui une dichotomie, une séparation entre deux termes très insuffisante pour décrire la réalité des identifications sexuelles des gens, souvent jeunes. C'est un phénomène relativement récent, cette ouverture à plein d'identifications sexuelles. Et alors, d'ailleurs, très fréquemment, il y a une condamnation très, très forte qui est posée sur tout écart à une norme qui serait celle, bon, bah, on a un sexe anatomique, donc on a le même genre, donc on aime l'autre sexe. Quoi.
Et on doit se comporter comme il faut par rapport à son genre et son sexe.
Voilà, absolument. Donc ça, c'est quelque chose qui est un point normatif extrêmement important. La psychanalyse a peu à faire avec... n'a rien à faire même de quelques normes que ce soit dans ce domaine-là. Et, encore une fois, sans préjuger de ce que pense chacun, mais ce qu'il faut sans doute essayer de comprendre, c'est que l'énorme condamnation, les persécutions, même dont font l'objet tous les gens qui ont un écart à ces identifications sexuelles, sont liées au fait que c'est du sexuel dont on parle, en fait. Je crois que c'est beaucoup plus ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est très... compliqué de raisonner en termes d'identification sur la question sexuelle. Par exemple, on peut s'identifier, je vais essayer de prendre un détour pour expliquer ce que je veux dire, qui n'est pas facile à expliquer. On peut, pour s'identifier, se dire, voilà, je suis français. Ça, c'est une identification. On peut dire, je suis français, on peut dire, je suis brun, on peut dire, plein de choses, je suis motard, pour se définir. Tout ça, ce sont des identifications. Et effectivement, si on dit « je suis transsexuel » ou « je suis homosexuel » ou quoi que ce soit, d'ailleurs, là, on place l'identification sur un terrain qui est celui du sexuel. Qui est donc le terrain sur lequel s'exerce le plus la contrainte morale, en quelque sorte. C'est là qu'effectivement, il y a une première transgression, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose dont on ne doit pas parler, y compris lorsqu'on est hétérosexuel, au fond. Du point de vue moral, globalement, la plupart du temps, on ne parle pas de ces choses-là. Mmh. Ouais, je parle de choses plus anciennes. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus déliées que ça, heureusement. Mais il n'y a pas si longtemps, on ne parlait pas de ces choses-là, quoi qu'il arrive. Donc quelqu'un qui se revendique d'une identité sur le registre de ce dont on ne doit pas parler, forcément, il est transgressif. Qu'il soit homosexuel ou qu'il ne soit pas homosexuel, qu'il soit simplement du côté du sexuel, qu'il se définisse du côté du sexuel, est profondément... choquant pour plein de gens, et ces gens qui vont se sentir choqués vont être souvent dans la position du persécuteur, de celui qui condamne et de celui qui blesse le plus. C'est bien sûr à reconnaître aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une vraie quand on est choqué, il peut y avoir une vraie souffrance en quelque sorte à constater que des gens tout d'un coup vont faire quelque chose qu'on considère comme n'étant pas bien. Donc on peut l'entendre et le comprendre. Simplement, la souffrance est peut-être dans une proportion tout à fait différente. Celui qui se sent rejeté et persécuté, à juste titre, on souffre généralement beaucoup plus. Il ne faut pas oublier que chez les adolescents, notamment, qui traversent des périodes parfois même de troubles simplement momentanés de l'identification sexuelle, ça arrive aussi, bien sûr. Il y en a beaucoup qui vont jusqu'au suicide. C'est une des causes du suicide adolescent importante aujourd'hui. Quoi. Donc, il faut être très prudent sur ces questions. Et moi, ce que je voulais simplement dire, c'était d'engager tout le monde comme ça à toujours réfléchir avant de condamner, de trouver que c'est scandaleux, etc. etc. Essayez juste d'entendre la difficulté que traversent ces gens-là. Quoi.
Je rebondis d'ailleurs sur un petit exemple que tu as donné au moment de l'adolescence. Et peut-être c'est important pour les auditeurs qui ont des adolescents parmi leur entourage ou parmi leurs enfants. C'est vrai qu'au moment de l'adolescence, il va y avoir un questionnement du côté du genre. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que être, que de devenir un homme, qu'est-ce que c'est que de devenir une femme.
Simplement, oui, bien sûr.
Voilà. Il faut d'ailleurs rappeler que c'est une expérience qui se joue d'abord et avant tout dans le corps. Hein, d'abord, bien avant, quoique de temps en temps, le monde marchand se charge de vous rappeler extrêmement tôt que vous pouvez être... on a envie de vous capturer pour vous vendre quelque chose qui correspondrait à ce temps de l'adolescence, mais c'est d'abord une expérience dans le corps. Comme d'ailleurs je le dis souvent, c'est comme pour la grossesse. La grossesse, c'est d'abord une expérience dans le corps, avec des seins qui gonflent, avec on prend du poids, etc. C'est une expérience sensorielle, c'est une expérience charnelle. Pour le garçon comme pour la fille, c'est la même chose. Hein. Et que cette expérience charnelle va durer un certain temps. On sait par exemple que pour la fille, entre le début de la surélévation des mamelons, hein, qui est le début, le premier signe de la puberté chez la fille, et les premières règles, il y a environ 2 ans. Hein. Donc vous voyez, c'est un moment où il y a un long moment. Voilà. Et là, le corps grandit, le corps change énormément. Et ce n'est pas du tout facile. Et en particulier, ce n'est pas du tout facile pour on puisse se mettre à se glisser dans cette nouvelle enveloppe, l'habiter pleinement, la faire sienne, et puis dire, surtout lorsque on a l'intime conviction que le genre correspond au sexe anatomique, qu'on est bien dedans. Voilà. Les adolescentes, par exemple, souvent changent et échangent leurs vêtements. Elles échangent en particulier leur soutien-gorge. Et le plus souvent, c'est « Et toi, tes seins, est-ce qu'ils sont comme les miens ?» Hein, la majorité des femmes ont un sein plus gros que l'autre. C'est souvent le sein gauche, d'ailleurs. Mais je sais que depuis pratiquement 40 ans que de temps en temps j'informe les femmes de cette situation, je sais qu'il y en a plein que ça soulage. « Ah bon ? Ah bon, il n'y a pas que moi ?» Ben non, madame. Ouais. La majorité, pour la majorité des femmes, c'est comme ça. Voilà. Et donc, les adolescentes, elles ont besoin de savoir ça. Et les garçons, on sait bien que quand ils font pipi sur le mur en essayant d'écrire leur prénom ou leur nom, c'est pas simplement dans une dimension urinaire, mais c'est aussi dans une dimension d'identité. C'est-à-dire, est-ce que moi, mon petit objet là que je vois qui grandit, qui de temps en temps devient tout dur ou que je découvre tout dur la nuit ou le matin quand je me réveille, est-ce qu'il va fonctionner ? Et à ce moment-là, il peut y avoir justement des expériences, on pourrait dire, homosexuées, avec d'ailleurs du corps ou sans du corps, qui ne correspond pas à une homosexualité fondamentale, par exemple, mais simplement à la nécessité de se confronter à du même que soi pour s'assurer qu'on est bien, en gros, comme tout le monde. Hein, voilà. Donc ça, c'est important peut-être pour nos auditeurs qui peuvent se dire quand même, ma fille, elle est toujours avec sa copine, elle dort dans le même lit, elles échangent comme ça, puis les deux copains, là, qu'est-ce qu'ils font tous les deux voilà. Non, il y a ce temps-là aussi qui est un temps d'appropriation nouvelle, ou d'appropriation plutôt de ce nouveau corps, et ça, c'est pas quelque chose qui est toujours simple.
Oui, tout à fait, c'est un moment de trouble, et d'autant plus lorsqu'il y a une hésitation, et oui. Justement, où on chercherait, quand on est adolescent, des repères de ce type-là, mais chez les personnes d'une anatomie radicalement différente, donc c'est oui. D'autant plus fragile, d'autant plus difficile, d'autant plus compliqué. Bon. Ce rapport-là au corps, puisqu'on essaie d'incarner la question du désir, alors que le désir, très souvent, tel qu'on en parle, n'a pas de réalité biologique. En fait, peut-être que tu pourrais d'ailleurs reciter les principales hormones concernées dans quelque chose qui pourrait se rapprocher du désir sans jamais en être. Puisque tu vas nous parler de bonheur, de plaisir, ouais. De satisfaction en général, et qu'on a tendance à considérer comme le but du désir, mais non, pas du tout. C'est ce qui va calmer à un moment le désir. Le désir n'a pas de but. Le désir est en soi. Oui, oui. Le désir, c'est la vie même. Voilà. Et on l'a déjà dit ça, mais par contre, il y a quand même des connotations du corps qui qui sont associés au désir. Bon, on essaiera de décrire comment, mais déjà dis-nous un petit peu ça, parce que je ne saurais pas le faire aussi bien que toi sur la sérotonine, etc.
Oui, alors on pourrait dire dans cet espace-là, les petites substances chimiques qu'on appelle les neuromédiateurs, hein, médiateurs parce qu'ils font le passage, en gros, de l'information entre des neurones, par exemple, ou entre des secteurs particuliers du cerveau. Il y en a plein dans le cerveau, il y en a plein. Il y en a des petits, il y a des précurseurs, il y en a qui se retrouvent au début, au milieu, à la fin d'une chaîne. En gros, on va en citer essentiellement deux plus un troisième. Il y en a un qui intervient beaucoup dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est un circuit sur le noyau caudé, le putamen, etc. Enfin bon, on s'en fout un tout petit peu dans le cerveau, on en a un de chaque côté. Et c'est un circuit qui fait que quand on a du désir et qu'il est satisfait, il y a une sécrétion de dopamine. Voilà, la dopamine. Alors, dopamine, c'est facile à comprendre, c'est ce qui fait qu'on se dope. Voilà, on se dope. Donc, quand on se dope, voilà, quand on consomme avec beaucoup, beaucoup d'objets, ou quand on consomme plus exactement beaucoup d'objets, on met en branle ce circuit de la dopamine et il fonctionne. Et il fonctionne avec une sensation de plaisir extrêmement, extrêmement importante, souvent assez jouissif, qui invite à recommencer, au fond, parce que c'est pas désagréable. Ce circuit dopaminergique, on en reparlera peut-être un tout petit peu, peut-être une autre fois, il tourne quand même beaucoup, beaucoup en rond, et il s'emballe très, très vite. Et en particulier dans les systèmes d'addiction,
oui, bien sûr.
C'est celui qui fonctionne, voilà. Et dans les systèmes d'addiction, plus on va passer de temps dans ce système d'addiction, plus la quantité de stimulus au départ pour l'entraîner devient de plus en plus faible. C'est-à-dire, voilà, prenons l'exemple de l'alcool, qui est une drogue dure. Eh bien, au début, il faut un peu beaucoup d'alcool pour que ce circuit se mette en route. Et puis ensuite, de plus en plus, la quantité d'alcool pour qu'on retrouve cette sensation de plaisir devient de plus en plus faible, ce qui fait que c'est une drogue dure. À l'opposé, il y a un autre circuit qui est le circuit de la sérotonine. Le circuit est un petit peu plus compliqué. La dopamine, c'est dans le cerveau. La sérotonine, l'essentiel de la sérotonine est fabriqué par les intestins. Hein. Ça peut paraître un peu bizarre. C'est pas tellement dans le cerveau que ça se joue.
Quand on est angoissé, qu'on a mal au ventre, voilà, quand même, on sait bien.
Tout à fait. Oui. Puis il y a eu tout ce qui a été dit autour de notre deuxième cerveau.
Oui,
il se passe plein de choses.
Oui.
On sait que probablement avec des biopsies intestinales, on pourrait prévoir longtemps à l'avance, c'est-à-dire quelques mois ou quelques années avant, certaines maladies neurodégénératives du cerveau, comme la maladie de Parkinson, par exemple. Voilà, donc ça, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est plutôt l'hormone du bonheur. Hein, voilà. Et puis, mais peut-être on fera une émission après là-dessus, à partir du désir, justement, dans quels espaces il s'oriente. Et le désir qui s'oriente vers le plaisir et le désir qui s'oriente vers le bonheur, c'est pas la même chose.
Non, on est d'accord.
D'autant qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'études qui actuellement semblent montrer que plaisir et bonheur, ça s'oppose. Et que plus on a de plaisir, plus on risque d'avoir des difficultés à accéder au bonheur. Or, quand même, peut-être c'est discutable, ce que je vais dire, mais je crois que le bonheur, ça vaut sacrément plus que le plaisir.
Ça, c'est là pour le compte.
Bon sujet de philosophie.
Un bon sujet à creuser, oui.
Ouais. 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 C'est pas dans la même temporalité. Troisième hormone, puisque j'en ai aussi une troisième, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, elle intervient dans la lactation, par exemple, dans le fait d'allaiter pour une femme. Elle intervient au moment de l'orgasme aussi, chez les hommes comme chez les femmes. Elle est vraiment très, très associée à la relation, et en particulier aux premières relations, aux toutes premières relations pendant les premiers jours, les premiers mois, les premières semaines, les premières années, peut-être les deux, trois premières années de la vie de l'enfant, où cette hormone a une grande place aussi, et elle intervient beaucoup dans la médiatisation de la relation.
Ouais, je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, on comprend bien, à la suite de ce que tu dis, comment on peut être amené à avoir des comportements dans la vie, à avoir même des pensées, à avoir des paroles qui tiennent grand compte de l'état hormonal intérieur.
Oui.
Ce qui est assez amusant toujours, c'est qu'on considère que dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. C'est très curieux de penser que le biologique puisse avoir une influence sur ce qu'on dit, sur la parole,
oui,
par exemple,
oui,
et d'imaginer que la réciproque n'est pas vraie.
Oui.
Bien évidemment, on est ici pour dire que très probablement, que de parler, de délier sa parole, d'aller vers plus de liberté, etc., enfin, tout ce qu'on disait dans les premières émissions, a un effet biologique. Mmh. Je pense que c'est indissociable. C'est l'un des exemples sans doute majeurs même du fait que la séparation corps-esprit
est probablement vaine.
En tout cas, elle n'est pas fonctionnelle sur tous les plans. Et pour ce qui est de la parole et de l'état intérieur, y compris biologique, il y a bien entendu de très grands liens. On sait d'ailleurs pas jusqu'où. On ne sait pas jusqu'où la parole peut soigner, par exemple. On n'a aucune idée de jusqu'où ça peut aller. On peut constater assez facilement sur des états de déprime ou des choses comme ça, donc des choses, j'ai bien compris, très liées à la sérotonine. Les effets peuvent être relativement rapides, relativement solides, mais on ne sait pas du tout si ça peut jouer un rôle sur tout un tas d'autres maladies. On le suppose parfois. Hein. Pour revenir aux animaux, on suppose même parfois qu'il y a des protections contre certaines maladies liées au fait d'avoir un animal familier, par exemple.
Oui, oui.
Voilà, bon, donc il y a plein de choses qu'on ignore largement. Ce que je veux dire, c'est que...
Ne serait-ce que dans l'attachement du maître vis-à-vis de l'animal.
Hein. Évidemment.
Et combien de fois, par exemple, moi, ça m'est arrivé deux fois. Alors, c'était juste une coïncidence après un article, mais la chienne a eu une tumeur des mamelles. Et j'ai proposé à sa maîtresse de faire une mammographie dans la suite. Et dans deux fois, c'est arrivé que deux fois, ça n'a évidemment aucune valeur statistique, on a trouvé un cancer du sein. Donc il y a aussi ces proximités charnelles, puissantes.
Mais certainement, c'est-à-dire que on écarte un peu trop facilement toutes ces questions, simplement parce qu'on est tellement accoutumé à la séparation du corps et de l'esprit comme n'ayant strictement aucun lien, rien à voir, etc. Quoi, ben non. On ne peut pas considérer ça comme ça. Évidemment, quand je parle corps et esprit, c'est sciemment. C'est-à-dire, je n'évoque pas la question de l'âme, qui est une question religieuse, qui n'a pas de lien direct avec ce que je viens de dire. Ça, l'âme, on y croit, on y souscrit ou pas, hein, c'est pas... Mais la séparation corps et esprit est une catégorie de pensée, simplement, dans laquelle on est tous plongés, et qui nous empêche, souvent, d'admettre des choses aussi évidentes que celles-là. C'est-à-dire qu'il y a forcément... utiliser un terme un peu technique, des rétroactions du corps sur le psychique et inversement, quoi. Par exemple. On va peut-être faire une deuxième pause musicale. Je crois que c'est à peu près l'heure à laquelle on l'a fait. Et on revient juste après. Thank you.
Peut-être j'avais envie, dans ce dernier moment-là qui nous reste sur cette émission d'aujourd'hui, j'avais un petit peu envie d'évoquer la question des difficultés des relations sexuelles à l'intérieur des couples. Quand je parle de ça, je parle des couples qui sont constitués, qui ont une histoire, qui ont un lien, et pour lesquels, au fond, il y a un attachement qui... Pour moi, en tout cas, c'est-à-dire au fond, il y a un désir mutuel dans le sens large du terme. Il y a un attachement, il y a une histoire. Hein, ce qui fait le couple, pour moi, fondamentalement, c'est quand même la mémoire construite, la mémoire commune qui se fait. C'est cet attachement avec une histoire commune qui fait le couple, beaucoup plus, il me semble, que tout le reste, c'est-à-dire beaucoup plus que les enfants, beaucoup plus que la sexualité, beaucoup plus que les biens en commun, il me semble. Hein, c'est vraiment cette histoire qu'on construit ensemble et qui contient toutes ces choses-là. Et vraiment, j'entends trop, quand même, depuis pas loin de 40 ans maintenant, des hommes et des femmes qui se plaignent, qui viennent dire leurs plaintes. Les hommes sont le plus souvent du côté de « ma femme n'a jamais envie, moi ça me pèse quand même, vous savez docteur, c'est quand même important, puis nous on a des besoins », par exemple. Hein. Mon propos, je rappelle ici, n'est absolument pas du côté du jugement, mais juste prendre acte de ça, voilà, c'est comme ça. Et des femmes qui viennent se plaindre en disant « mon conjoint ou mon mari ne pense qu'à ça, il y en a marre, moi j'aime bien les câlins, mais on n'est pas obligé d'avoir une sexualité après. Mais comme ça se termine toujours comme ça ou toujours par une demande comme ça, moi du coup j'évite les câlins, j'évite la tendresse et on voit bien ce que ça peut donner. » Donc j'aurais vraiment envie de rappeler combien, dans l'expérience, en tout cas professionnelle que j'en ai, combien, au fond, la charge d'histoire à l'intérieur des familles peut être, de manière totalement, totalement inconsciente, une sorte de chape absolument terrible. Et là, vraiment, ces dernières années, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui souffraient du côté de cette sexualité avec leur conjoint qu'elles aimaient profondément, avec lequel il y avait vraiment une histoire construite. Et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi, chez elle, il y avait quelque chose qui était complètement bloqué. Et quand on reprenait l'histoire, on s'apercevait qu'il y avait souvent quelque chose d'extrêmement terrifiant autour d'un viol, autour d'un inceste. Je pense que cette question-là, on les reprendra peut-être lors d'autres émissions. Mais qu'en tout cas, il y avait une sorte de blessure sur une et souvent même deux générations, les deux générations qui précédaient, et que cette blessure les agissait, quoi. Au fond, elles étaient actées de manière totalement inconsciente par cette blessure-là. Donc, voilà, c'est au fond une sorte d'invitation pour les auditeurs et les auditrices à dire, s'il y a quelque chose qui se passe comme ça à l'intérieur de votre couple, n'hésitez pas à prendre le temps d'y réfléchir, d'en parler ensemble, éventuellement d'aller en discuter avec un tiers qui pourra peut-être vous aider à comprendre qu'il y a des ombres mémorielles, qu'il y a des cadavres ou dans les placards, ou qu'il y a des blessés, ou qu'il y a des enfants abusés, ou qu'il y a des femmes violées, ou qu'il y a des hommes abuseurs, ou comme ça, dans l'histoire familiale. Et que quand on reprend ça, c'est toute la fonction de ce que tu rappelais tout à l'heure à propos de la parole, alors on peut gagner une très très grande liberté par rapport à ce poids d'histoire inconsciente et retrouver à ce moment-là la possibilité de créer un lien plus juste.
Oui, du reste, tu as cité des catégories ou des affirmations un peu communes, genre les hommes ont des besoins, ouais. etc. etc. Je crois que c'est... C'est fondé sur pas grand-chose, sauf sur le fait que c'est extrêmement pratique oui. de s'abriter derrière des fausses vérités extrêmement communes comme ça, parce qu'on se dit, bon voilà, ça nous arrange bien, tout le monde pense comme ça, on va adhérer à cette façon d'y penser. En fait, on ne pense pas comme ça, on s'abrite derrière des grands oui. mots, des grandes habitudes, des grandes expressions.
Mais qui font un peu loin, c'est qui ça font qui est tragique.
Enfin, qui font un peu loin, du coup, qui font un abri ouais. qui permettent en tout cas d'éviter de se fatiguer peut-être à s'ouvrir un peu à l'autre, parce que c'est aussi ça la question, parce que les hommes ont des besoins, ça peut être une revendication, ça peut être du côté de l'homme, ça peut être une accusation presque du côté de la femme. Dans les deux cas, on sait bien ce qu'une revendication signifie comme manque d'assurance la plupart du temps derrière. Donc elle est mal fondée, cette revendication, elle est mal assise, elle est mal...
Avec un accent circonflexe sur le A,
voilà,
les mâles.
Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et donc on voit bien comment cette revendication peut abriter... plutôt un homme fragile de ce côté-là et qui doute de lui, justement. Bon. Comment une femme accusant de ce côté-là peut s'abriter derrière le fait que son désir ne fonctionne pas bien pour des tas de raisons qu'on a, des raisons culturelles, des raisons sociales et des raisons plus fortes encore, psychologiques, psychiques, personnelles, évidemment, de sa propre histoire. Mais tout ça vient facilement comme ça être obturé par des grandes phrases dépourvues de sens, ou plutôt qui cachent un sens fort différent, beaucoup plus complexe, beaucoup plus libérateur lorsqu'on y accède, encore une fois. Quoi, parce que les femmes aussi ont des besoins. On pourrait le dire
bien sûr.
Que voilà.
Tout à fait.
Et puis, les hommes aussi ont des difficultés avec leurs désirs. Et puis, voilà, enfin, tout ça est quelque chose de beaucoup plus... on peut se demander ce qu'il advient aussi... Enfin, on sait bien ce qui advient aussi des gens qui ne peuvent pas s'abriter derrière ces grands paravents. Les hommes ont des besoins pour un homme qui n'en aurait pas, ou qui aurait peu de désir, dont le désir ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est très compliqué là aussi.
Et puis, je pense que la possibilité de parler de ça permet vraiment d'accueillir et d'explorer la complexité de ce désir, puisqu'on parle du désir, la complexité de ça, les enracinements extrêmement multiples, les blocages que nous avons tous, les peurs que nous avons tous. Hein, voilà, ça concerne, je crois, tout le monde, et ça vaut le coup de tenter justement d'en parler, hein, voilà, parler pour ne rien taire, au fond. Hein.
Oui, ce qui est difficile aussi avec ces questions, c'est un petit peu comme lorsque tout à l'heure nous parlions de transsexualisme ou des choses comme ça. C'est que dès lors qu'on fait apparaître l'ombre du sexuel, il y a une énorme difficulté gigantesque à évoquer ces questions. Parce qu'il y a un poids moral. Et encore une fois, ce sont des choses dont on ne parle toujours pas tant que ça. Et ce n'est pas parce qu'on montre des corps dénudés à la télé ou dans les publicités, que ça change quoi que ce soit en la matière. Ça ne change strictement rien dans ce domaine-là. Et
peut-être c'est d'ailleurs important de penser que ce domaine-là, comme par exemple la mort, d'ailleurs la mort et la vie, c'est l'émergence de la vie et la fin de la vie, c'est deux moments tout à fait importants. Ce domaine-là est particulièrement complexe parce qu'il procède d'une finalité et d'une origine qui sont complexes. La finalité, dans une certaine mesure, c'est à la fois la procréation et à la fois l'union, au fond, de deux parties séparées. L'androgyne, andros et gynos, gynos qui a donné, le mot grec qui a donné gynécologie, par exemple, andros, andrologie, voilà. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose, en particulier dans le mythe grec de Dieu, qui a séparé les hommes en deux, les humains en deux, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est tout à fait fondamental, puisqu'il s'agit de réunir quelque chose qui aurait été, en tout cas sur le plan de l'imaginaire, et d'une symbolique séparée, et deuxièmement, d'ouvrir à la procréation, donc à la vie. Donc on est là dans le domaine du sacré, fondamentalement dans le domaine du sacré.
Oui.
Et c'est pour ça que tout ce qui est sacré est à la fois fascinant, extrêmement attirant, et en même temps terrifiant.
Oui, le sexe, de ce point de vue-là, la procréation, c'est la métaphore la plus forte de la vie, évidemment, de la vie qui se continue, qui se perpétue, qui va avec la mort. Tu le rappelais dans une émission précédente, c'est-à-dire que la reproduction sexuée, elle signifie la mort aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça, parce que ces deux dimensions-là sont probablement parmi les plus importantes, donc elles sont sacrées, qu'il y a autant de violence qui peut s'exercer sur ce domaine-là, y compris, quoi. Évidemment, en parlant du sacré, en associant sacré et violence, je fais référence à un livre assez incroyable de René Girard qui s'appelle « La violence et le sacré ». Mais bon, on touche à des choses qui sont extraordinairement sensibles, qui blessent aussi potentiellement, mais qui aussi réparent et font du bien, évidemment.
Donc peut-être là, on arrive un peu au terme de notre émission. Je pense que c'est vraiment important de se dire que le désir s'enracine vraiment aussi profondément dans le corps. Et que dans ce corps, si on pense qu'il nous appartient pleinement, c'est-à-dire qu'il est autant identitaire que notre psychisme ou que notre âme ou que ce qui en émerge du côté du langage, alors il y a lieu de ne pas oublier le corps. Et vraiment ne pas... pouvoir vraiment profondément avoir accès dans un travail de réflexion et dans un travail d'élaboration à ce corps de désir, je crois que c'est vraiment tout à fait essentiel dans l'existence.
Ben, ça sera un très bon mot de la fin.
Merci Olivier.
Merci Dominique. À bientôt.
À la prochaine.